Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
Nous cherchons à recueillir des leçons sur ce que nous pouvons apprendre de la vie de Joseph dans le livre de la Genèse. Ainsi, la dernière fois, nous avons découvert qu'au sein même de sa famille, il a vécu des choses bien difficiles. Alain, quels aspects de la vie de Joseph allons-nous considérer aujourd'hui?
Nous allons réfléchir sur le fait que chez lui, Joseph était aimé par certains, mais détesté par d'autres.
Que savons-nous donc sur l'enfance de Joseph?
Nous apprenons que son père, Jacob, a mené une vie de nomade et que sa famille a quitté Haran pour se rendre au pays de Canaan. Joseph, lui-même, au chapitre 37 de la Genèse, nous est présenté d'une façon assez surprenante.
Et pourquoi dites-vous cela?
Eh bien, nous apprenons au verset 3 qu'il était l'enfant préféré de son père. En fait, Jacob l'aimait plus que tous ses autres fils, car Joseph est né alors qu'il était vieux. Ce garçon était donc pour lui un véritable cadeau, il lui procurait un immense bonheur.
Mais n'est-ce pas naturel pour un père d'aimer son fils?
Dans un sens, oui. Cependant, l'attitude de Jacob envers Joseph manquait de sagesse, car Jacob aurait dû aimer tous ses fils de la même manière et ne pas montrer de favoritisme envers Joseph.
C'est-à-dire qu'il favorisait Joseph? Il prenait son parti sans se soucier s'il faisait d'une façon juste ou non?
Oui, tout à fait. Et l'attitude de Jacob envers Joseph n'était pas logique, car en fait, Joseph avait un frère nommé Benjamin, après lui, de la même mère. Par conséquent, Benjamin était un enfant conçu alors que Jacob était bien plus âgé encore. Pourquoi donc n'était-il pas aimé de la même façon que Joseph? Il faut aussi ajouter que Jacob avait déjà appris, alors jeune homme, que favoriser une personne au détriment d'une autre est une source de discorde et de malheur.
Pourquoi dites-vous cela?
Eh bien, lorsque Jacob était jeune, son père montrait sa préférence pour son frère Ésaü. Ensuite, Jacob lui-même a aimé sa femme, Rachel, plus que sa première femme, Léa. De ce fait, des désaccords permanents et une jalousie constante divisaient ces deux femmes. Il aurait dû, fort de ses expériences, en retirer une leçon et ne plus reproduire ses injustices. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, semble-t-il.
Alain, que pouvons-nous apprendre de cela?
Eh bien, le fait que, tout simplement, nous aussi, nous sommes lents à tirer des leçons positives de nos expériences. Aussi, nous devons chercher l'aide du Seigneur pour apprendre de nos erreurs et de nos décisions imprudentes.
Merci. Et revenons à l'histoire de Joseph. Comment donc Jacob a-t-il montré sa préférence pour Joseph?
Eh bien, il agissait envers Joseph d'une façon qui ne pouvait que créer ou entretenir la rancœur chez ses autres fils. Il a donné, par exemple, à Joseph une robe somptueuse qui le distinguait de tous. Ce vêtement est décrit de diverses façons. Par exemple, une tunique de plusieurs couleurs, une robe richement travaillée. C'était un habit d'une qualité exceptionnelle et l'on ne pouvait que remarquer la personne qui s'en revêtait.
Et, bien entendu, ce vêtement ne pouvait que rendre ses frères jaloux.
Et oui, naturellement. Or, il n'y aurait pas eu cette jalousie si Jacob avait caché son affection pour Joseph. Mais le fait de montrer si ouvertement sa préférence pour ce fils a creusé un fossé entre Joseph et ses frères et entre ses frères et leur père.
Alors, comment les frères de Joseph se comportaient-ils envers lui?
Eh bien, nous découvrons qu'ils le méprisaient. Yann, voulez-vous lire Genèse 37, verset 4?
Oui, volontiers. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler aimablement.
Ils n'éprouvaient pas seulement du ressentiment, bien pire encore, ils le détestaient. C'est une véritable tragédie. Lisons à présent un texte du Nouveau Testament pour comprendre ce que Dieu dit au sujet du ressentiment. Prenons par exemple 1 Jean, chapitre 3, verset 15. « Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. » Leur haine pour Joseph était telle qu'ils étaient incapables de lui dire un seul mot gentil. Et cette haine avait atteint un point de non-retour. Elle était le résultat d'avoir vu leur père gâter leur frère Joseph durant des années. et la tunique offerte à Joseph par leur père n'a fait qu'aggraver leur haine.
C'est une situation bien triste.
Tout à fait. Et leur profond dégoût pour Joseph, leur méchanceté pour lui, allait de mal en pis. Il est facile d'imaginer leurs pensées. Pourquoi notre père ne nous donne-t-il pas de beaux vêtements? Pourquoi le préfère-t-il? Et ainsi de suite. Joseph devait se sentir de plus en plus isolé dans sa propre famille.
Mais Alain, confronté à de tels sentiments, qu'auraient dû faire ses frères?
Ces hommes auraient dû reconnaître le mal qui résidait dans leur propre cœur. Ils auraient dû chercher la sagesse de Dieu afin de l'honorer devant ce problème réel. Mais ils ne l'ont pas fait. Le problème est que lorsque l'on entretient le péché dans son cœur, il grandit. Notre histoire le démontre. La haine est comme un cancer qui se répand dans l'âme. La haine enlève la moindre pitié que l'on pourrait ressentir pour sa victime. Elle change même notre capacité de bien raisonner. C'est pourquoi, lorsque des pensées haineuses envers une autre personne viennent s'établir dans notre esprit, il faut agir vite pour prendre des mesures contre ce péché.
Alors, que devons-nous faire si nous éprouvons de pareils sentiments envers une personne?
Lisons les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à l'église d'Éphèse au verset 31 du chapitre 4. Il déclare « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Retenons ces mots. Faites disparaître. Il est dangereux de laisser grandir des sentiments et des pensées négatives. Dieu les tient en horreur et il châtiera celui qui ne prend pas au sérieux ses avertissements. Par contre, à celui qui désire les faire disparaître, il accordera le secours de son esprit qui aidera dans la lutte.
Merci Alain. Revenons alors à l'histoire de Joseph.
Oui, Yann, une autre chose que nous pouvons remarquer dans la triste situation de famille de Joseph est que l'on ne voit jamais son père Jacob intervenir pour arranger la situation. Il aurait dû être sensible aux sentiments et intérêts de tous ses enfants. Il est certain qu'en tant que parents, nous faisons bien des erreurs dans l'éducation de nos enfants. Mais nous devons toutefois veiller à les repérer et chercher à tirer des leçons à partir de la Bible et de la sagesse que nos aînés peuvent nous donner.
Merci. Le chapitre 37 de la Genèse prouve que la rancœur et la haine peuvent facilement se glisser dans nos pensées. Ce chapitre nous sert donc d'avertissement. Il nous rappelle que nous devons garder nos cœurs de sentiments méchants. Si jamais toutefois nous en éprouvions, nous devons tout de suite nous en repentir et demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin de porter nos péchés.
Comme il est triste de constater que les relations au sein d'une famille peuvent se détériorer si facilement. Cela fut le cas pour Joseph, et j'imagine que nombreux de nos auditeurs se trouvent confrontés à des difficultés semblables.
Oh, Dieu a créé la famille pour le bien de tous. Ainsi, la famille devrait être un lieu paisible, un lieu où chacun se sent en sécurité, un lieu où l'un et l'autre peuvent s'épanouir. Cependant, l'histoire de Joseph nous montre que le péché qui réside dans nos cœurs rend la vie de famille fragile.
Cela est vrai, Yann. Mais comment une famille peut-elle surmonter ou éviter ce genre de problème?
Chacun doit se remettre en question et admettre qu'il a besoin d'apprendre de Jésus-Christ sur la manière de véritablement aimer son prochain. Comment aimer nos parents? Comment aimer nos enfants? Comment aimer notre époux ou épouse? Comment aimer notre frère, notre sœur? La Bible nous instruit sur chacune de ces questions. En écoutant la sagesse de Dieu, nous éviterons bien des pièges. Nous apprendrons comment construire notre famille afin qu'elle devienne un lieu de repos et de paix.
Merci, Yann. Je pense qu'il nous faudra revenir sur ce sujet un jour. Mais à présent, Jean-Marc va poursuivre ses méditations bibliques sur les paroles de Jésus, appelées les Béatitudes. Il commence avec la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
« Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Pour voir Dieu, c'est-à-dire pour marcher en communion avec lui, nous avons besoin d'un cœur pur. Toutefois, tous nous avons un cœur impur. Écoutons ces paroles de Jésus expliquant pourquoi. Comprenez-moi bien, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Les disciples de Jésus n'avaient pas vraiment compris ce que signifiaient ces paroles de Jésus. Alors le Seigneur leur a donné les explications suivantes. « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Ce n'est donc pas ce que nous voyons ou entendons qui nous rend impur, pas plus que ce que nous touchons ou mangeons. Non, ce qui nous rend impur devant Dieu, ce sont nos mauvaises pensées, nos mauvais sentiments ou nos mauvaises motivations. Ces choses nous poussent à prononcer des paroles qui font du mal et à commettre des actes égoïstes et méchants. Étant donné que nous sommes tous impurs, une question se pose. Comment pouvons-nous devenir purs et ainsi voir Dieu ? Écoutons la réponse donnée à cette question par l'apôtre Jean dans sa première épître. « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Comment nous purifier de notre péché ? Ce n'est sûrement pas en prenant un bon bain. Ce n'est pas non plus en accomplissant les rites ou rituels d'une religion quelconque. Ce n'est ni en cherchant, pour compenser nos fautes, à mener une vie respectable ou en accomplissant de bonnes œuvres. Selon l'apôtre Jean, il n'existe qu'une seule démarche efficace, celle de reconnaître son péché, c'est-à-dire de confesser à l'Éternel ses fautes et de regretter profondément ses offenses envers lui. Si nous effectuons sincèrement une telle démarche, Dieu accomplira pour nous ce que nous ne pouvons pas réaliser de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il nous purifiera de tous nos péchés. Et il s'agit là d'une promesse sûre et certaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Comment Dieu peut-il nous purifier ? Par le sang de Jésus versé sur la croix, par la mort de notre Seigneur, victime innocente, qui donna sa vie pour nous, les vrais coupables.
Pour en savoir plus et connaître la suite de l'histoire de Joseph, nous vous invitons à nous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.